Pour suivre l'étude de l'évangile de Jean, cette série que l'on a déjà commencé depuis quelques semaines, on en est rendu au chapitre 6. Une précision, l'Assemblée générale, c'est jeudi en 8, quoi, le 8 juin, pour le pain de vie. Je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 29. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit des pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Et Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Imaginez, si vous êtes célibataire, ça va peut-être vous parler, que vous souhaitez vous marier et qu'on vous pose la question, mais pourquoi est-ce que tu voudrais te marier? Et que votre réponse est, ouais, moi je veux me marier parce que, en fait, je m'en sors pas avec le linge. Je veux me marier parce que le ménage, tout ça, ça me dépasse complètement. Et puis en plus, j'aimerais vraiment quelqu'un qui soit là, quoi, et qui m'écoute. qui me comprennent. Quelle femme répondrait à une telle demande en mariage? Aucune. Aucune, vous diriez, mais ce gars, il cherche une cuisinière, une femme de ménage et une psy, pas une épouse. Et pourtant, les épouses font tout ça, et plus encore. C'est pareil pour le choix d'un mari, hein. Je vais faire le... Si vous avez besoin de quelqu'un qui sort les poubelles et fait le café, fixe les étagères et tond la pelouse, quelqu'un qui entretient la voiture, le chauffage et la piscine, et en plus qui fait un potager, vous avez besoin d'un majordome ou d'un jardinier, pas d'un mari. Un conjoint, il veut être épousé, non pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il est. Il vous faut aimer sa présence. Il vous faut aimer sa beauté, son sens de l'humour, sa vivacité d'esprit, sa tendresse, sa patience. Si vous voulez passer le reste de vos jours avec lui ou avec elle. Et il est possible qu'il ou qu'elle vous apportera aussi tout ce que vous ne cherchez pas, savoir la cuisinière, le majordome, la femme de ménage ou le jardinier. Pour quelles raisons suivons-nous Jésus? Pour quelles raisons suivons-nous Jésus? Jésus n'est pas venu principalement pour répondre à nos besoins terrestres, mais pour nous donner la vie éternelle. Nous retrouvons ici Jésus du côté du lac de Galilée. C'est dans cette région qu'il a déjà fait ses premiers miracles. Les deux premiers miracles, c'est l'eau changée en vin et la guérison à distance du fils de l'officier. Ce sont les miracles que Jean appelle des signes, les signes qui révèlent qui est Jésus. Et dans le chapitre 5, nous avions vu que le troisième signe, c'était la guérison d'un paralytique qui avait passé 38 ans, paralysé à la piscine de Bethesda. Et nous trouvons ici le quatrième signe rapporté par Jean, la multiplication des pains pour 5000 hommes. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est de voir que Jésus est le pain de vie. On verra tout d'abord le miracle des pains, la recherche des pains, et puis ensuite la venue du vrai pain, et enfin manger le vrai pain. Regardons tout d'abord le miracle des pains. Ça c'est dans les versets 1 à 15. Il y a une grande foule qui suivait Jésus, parce qu'elle voyait Jésus faire des miracles. Il est dit au verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jean nous livre aussi ici la pensée de Jésus. Et verset 4, il dit c'est la Pâque, la fête des Juifs. Et c'est déjà la deuxième Pâque que l'on célèbre depuis le début de l'évangile de Jean. Et la troisième qui sera célébrée, c'est la Pâque où Jésus-Christ va être crucifié, où il va être offert. Donc il est à un an de la croix ici. Imaginez la pensée de Jésus. Encore un an. Encore un an et je serai crucifié. Et il voit cette foule qui vient juste pour manger. Juste pour voir des miracles, juste pour être guéri, juste pour être délivré, juste pour... Et là, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette foule? Qu'est-ce que je vais faire avec cette foule? Jésus lève les yeux et cette foule de 5000 personnes... 5000 hommes. Tous les évangélistes rapportent ce miracle de la multiplication des pains. Et tous mentionnent les 5000 hommes. Et l'évangéliste Matthieu précise, lui, que c'était 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et donc, tous les commentateurs s'accordent pour évaluer cette foule à environ 20 000 bouches à nourrir, 20 000 estomacs affamés. Voilà le contexte de notre... récit de ce miracle. Alors il s'adresse à Philippe. Il s'adresse à Philippe parce que Philippe, il est de Bethsaïda. Et c'est juste à côté. Et il dit, Philippe, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette foule-là? Et Philippe réfléchit, mais probablement il sait à peu près ce qu'ils ont dans la bourse, là. Et ils se disent, mais même si on avait beaucoup plus que ça, si on avait 200 deniers, ça représente à peu près 8 mois de salaire d'un ouvrier. Si on avait 8 mois de salaire, là, pour payer un repas à tout ce monde, mais ils auraient juste un petit morceau. Juste du pain, hein, il n'y a encore pas ce qu'on met dedans. Et là, c'est compliqué. Heureusement, il y a André qui vient à la rescousse et qui lui dit, mais on a déjà 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça représente rien. En fait, Jésus, il sait tout ça. Il sait même ce qu'il va faire. Et du coup, il interroge Philippe simplement pour mettre en évidence le côté impossible, le caractère spectaculaire du miracle qu'il va opérer. Mais Jésus aussi, il fait le miracle parce qu'il veut révéler sa compassion, sa bonté et sa grâce. J'aime ça. Voyez-vous, ce n'est pas parce que cette foule est particulièrement pieuse qu'il va la nourrir, mais simplement parce qu'elle a besoin d'être nourrie. Et Jésus, il sait ça. Et il est pris de compassion pour eux. Il n'ignore pas les besoins matériels de ces gens. Il sait qu'ils ont besoin de manger, ils ont besoin de santé, ils ont besoin de nourrir leur famille. Et Jésus, il est plein de compassion et de miséricorde. Et c'est pour cela qu'il va multiplier ses pains et répondre à leurs besoins. Quand Dieu intervient miraculeusement dans une vie, il ne le fait pas uniquement en réponse à la foi, mais à cause de sa grâce, parce qu'il est bon, parce qu'il a décidé de faire pleuvoir sur les justes et aussi sur les injustes. Et il veut que sa grâce, elle soit répandue sur le monde entier. Et Jésus, il rend grâce et il commence la distribution. Et les pains et les poissons se multiplient. Chacun est servi, chacun en reprend. Et ils sont tous rassasiés. Il reste encore 12 corbeilles. Et là, ils sont tous émerveillés par un tel miracle. Vous pouvez imaginer ce que ça représente pour eux. Ils viennent de voir des pains et des pains et des pains et des poissons, des milliers de chaque, et il y a encore 12 paniers pleins. Et ils sont tous là, rassasiés. Et ils se disent, mais lui là, il va régler tous nos problèmes. Il va nourrir tout le monde. Il guérit gratuitement. Il nourrit gratuitement. Alors vous imaginez, il faut qu'il soit premier ministre ou président, le roi. Et tout de suite, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein, au verset 15, il est dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Combien cherchent un tel Jésus et sont prêts à s'offrir les services d'un tel prophète et qui répond à tous leurs besoins? Un Jésus qui nous sert, au fond, qui nous est très utile. Et Jésus s'éclipse, il ne veut pas de cela. En fait, Jésus, il s'échappe parce qu'il ne veut pas être le génie de la lampe. Celui qu'on frotte là, fais-moi ça, et puis fais-moi ça, et puis j'ai besoin de ça. Simplement, un Dieu que j'utilise, quoi. Un Dieu qui m'est utile. Les disciples, alors, montent dans la barque. C'était l'unique barque qu'il y avait là. Et donc, ils traversent. Ils sont partis en direction de Capernaum. Et puis, là, il y a une tempête qui se lève. Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Jusque-là, tout est normal. L'instant où ils montent dans la barque, ils arrivent. C'est incroyable les miracles, comment la Bible nous rapporte cela avec une sobriété extraordinaire. Et les versets 22 à 24, j'aimerais vous les relire, il dit ici, « La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques arrivaient de Tibériade, Tibériade c'est le sud, ils sont allés sud-ouest, ils sont allés au nord-est, et puis ensuite ils voulaient aller traverser vers Capernaum au nord-ouest du lac. Et donc, comme ils étaient arrivés de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé les pains après que Jésus leur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans les barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Voilà la grande question qu'ils ont. Ils le trouvent, il est probablement déjà dans la synagogue. « Quand es-tu venu ?» En fait, comment tu as fait ? Et si Jésus répond, « Ah, mais comment j'ai fait ? C'est simple, quoi. J'ai marché sur l'eau, jusque-là, jusqu'en plein milieu du lac, parce que les disciples, ils étaient dans la tempête. Et puis, là, Jean n'en parle pas, mais sur cet épisode, Pierre a voulu venir marcher sur l'eau. Alors, je lui ai dit de venir. Il est venu, il a marché un peu, pas trop bien. Et puis finalement, je l'ai rattrapé, on est remonté dans la barque, j'ai arrêté la tempête, et l'instant d'après, on est arrivé. Vous imaginez Jésus qui dit ça ? Mais à nouveau, tout le monde veut le faire roi, mais alors il fait tout à merveille, lui. Il est extraordinaire. Et Jésus ne fait pas du tout cette réponse. Il ne fait pas cette réponse, et au verset 26, voilà la réponse, et c'est à mon sens le verset clé de ce passage. Il leur dit, en vérité, on est habitué à cette expression, c'est très important ce qui suit. « Je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » C'est comme si Jésus leur disait, « Ce n'est pas moi que vous cherchez, mais vous cherchez des pains, juste. » Au lieu de voir dans les pains le signe de qui est Jésus et ce qu'il peut apporter dans l'éternité, ils n'ont vu dans le signe que les pains. Le miracle devrait nous porter à aimer le Seigneur, parce qu'il est le Seigneur, non pas seulement parce qu'il comble nos besoins ici-bas. Si Jésus est Dieu, je dois me réconcilier avec lui alors. S'il est Dieu, il est digne d'être suivi, d'être aimé et glorifié, qu'il me guérisse ou pas, qu'il me donne du travail ou pas, que mon conjoint m'aime ou pas. Vous me cherchez parce que vos estomacs ont été remplis, non parce que vos cœurs ont été remplis. Vous me cherchez parce que je vous suis utile, non pas parce que je vous suis précieux. Un autre vous donnera à manger, et alors vous irez après lui. Un autre vous donnera la santé ou du travail, et vous le suivrez. Le signe miraculeux doit nous pousser à reconnaître Christ comme notre Dieu et nous attacher à lui seul. Jésus dit, vous faites beaucoup d'efforts pour me trouver afin que j'améliore votre situation ici-bas. Mais ce qui est bien plus important, c'est de travailler pour les choses éternelles que je suis venu vous apporter. Et le miracle des pains, c'est le sceau de Dieu sur moi, pour que vous croyiez en moi. Jésus, dans la lecture qu'on a faite du Deutéronome, chapitre 8, il dit qu'il les a mis à l'épreuve pour qu'ils comprennent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tout le miracle ici, c'est pour montrer que nous n'avons pas à vivre simplement de pain. le pain du boulanger, mais de toute parole, de ce que Jésus lui-même est une nourriture pour nous. Alors, il enchaîne avec présentant sa venue comme étant le vrai pain. Verset 30, vous avez remarqué ce qu'ils disent. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ?» Que fais-tu ? Il a créé du pain et des poissons pour 20 000 personnes la veille. Et il demande, quel miracle fais-tu ? Vous rendez compte de l'incrédulité ici ? Ils enchaînent verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Sous-entendu, Moïse nous a donné de la manne tous les jours, pendant 40 ans, et nous étions bien plus nombreux que 20 000. On était une foule immense. Ça a duré 40 ans. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, la manne, c'était tous les jours. Alors, donne-nous la manne. Donne-nous du pain. Fais du pain. Vas-y, fais du pain et on va croire en toi. Jésus n'a pas l'intention de leur donner de nouveau du pain. Au fond, le fait que Dieu ait donné la manne au peuple ne les a pas empêchés d'être incrédules. Si nous n'avons besoin que d'un boulanger, alors nous ne cherchons pas vraiment Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous rassasier d'une faim qui est bien plus profonde. Une faim de justice. Une fin de pardon, une fin d'espérance, une fin d'éternité, une fin de sens pour nos vies, de sainteté, de joie et de paix. Pour aujourd'hui et pour l'éternité, dans le verset 35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le vrai pain venu du ciel, il est bien supérieur à la manne. Ceux qui ont mangé de la manne devaient le faire chaque jour, et ils avaient encore faim, et ils se sont même lassés de la manne. Si nous venons à Christ simplement pour ce qu'il nous apporte aujourd'hui, alors nous aurons encore faim. Il nous faudra encore quelque chose. S'il vous a guéri d'une maladie, vous reviendrez un jour vers lui pour une autre maladie, ou pour un nouveau besoin. Vous aurez encore faim. Si tout ce que vous recherchez en Christ, c'est pour cette vie seulement, alors aussi délicieux que cela puisse être, vous aurez encore faim. Si vous ne suivez Jésus que parce qu'il vous protège dans vos déplacements, il est fort possible qu'un jour, il ne vous préservera pas d'un accident. Est-ce que vous le suivrez encore ? Les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans et ils sont morts. Si vous cherchez Christ que pour ce qu'il vous apporte dans cette vie, vous allez aussi mourir. Le fils si malade de l'officier, qui a été guéri miraculeusement à distance par Jésus, ce fils est mort par la suite. Le paralytique de la piscine de Bethesda, après 38 ans de souffrance, il s'est levé d'un bond. Quelques années plus tard, il est mort. L'aveugle né, miraculeusement guéri par Jésus. Un jour, il est mort. Et Lazare, qui était mort, qui a été enterré pendant 4 jours et qui est revenu à la vie, il est remort. Et si nous espérons que pour cette vie, alors nous ne cherchons pas véritablement Jésus-Christ. Seul le pain que Jésus nous donne nous fait vivre éternellement. Et ce pain, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est sa vie qu'il nous donne. Celui qui croit en Christ ne mourra jamais. C'est le refrain dans tout le passage, verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain de vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est pour ça qu'il nous faut manger le vrai pain. Et Jésus, il fait dans tout ce passage une analogie entre le pain qui est au fond la préoccupation principale des gens. Parce que le pain, finalement, il nous procure la vie terrestre. Et il fait une analogie entre ce pain du boulanger avec le pain du ciel qui donne la vie éternelle. Verset 31 et 32, Jésus dit que même la manne miraculeuse n'était pas le pain qui venait du ciel. Jésus seul est le pain qui est venu du ciel et qui donne la vie éternellement. Manger, et dans les analogies qu'il prend, il dit manger, ça résulte de la faim. Ceux qui sont repus ne s'intéressent pas à la nourriture. Ma femme me demande des fois, après à la fin d'un repas, « Alors, qu'est-ce que tu aimerais manger demain avec tels amis, là ?» Moi, à la fin d'un repas, j'ai pas d'idée. J'ai même pas envie qu'on en parle. J'ai même pas... aucun désir. Parce que je suis repu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, on est tellement repu ici-bas qu'on n'a aucune faim pour les choses éternelles. Vous ne connaîtrez jamais la faim spirituelle de Christ tant que vous n'avez pas faim. Faim de pardon. Faim de délivrance à l'égard du péché. Fin de cette paix profonde de lui appartenir. Fin de son amour inconditionnel. Fin de lui. Et puis la nourriture, ça ne sert à rien à moins d'être mangé. C'est pas un poster. J'avais dans la cuisine de mon enfance, on en avait un poster avec un œuf à la coque qui découlait. Et puis il y avait un autre poster, c'était un grand plateau de fromage, délicieux. Oh là là, mais ça m'a jamais nourri. Les images ne vous nourrissent pas. Ce qui nourrit, c'est d'assimiler, de prendre. Et c'est pareil pour les choses spirituelles. Vous pouvez les connaître ici. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Vous connaissez sa mort, sa résurrection. Mais si ces vérités-là n'ont pas pénétré votre cœur, il ne se passe rien. Et puis manger, ça implique la confiance. Personne ne mangerait de la nourriture avariée en connaissance de cause. Quand avec Samuel on mange les restes du frigo, régulièrement on sent avant de se jeter dessus. Quand c'est un petit peu bleu au-dessus, on mange pas. On croit que ce que l'on mange est comestible. Croyez-vous que Jésus est la solution à votre vie? Croyez-vous que Jésus est vraiment la solution à votre vie? C'est-à-dire, ça veut dire, c'est si tout s'effondre, mais que je garde Christ, tout va bien. Est-ce que vous pouvez dire ça? Jésus, c'est le seul qui me soit utile. Et puis la nourriture, c'est personnel. Vous ne pouvez pas manger un plat pour quelqu'un d'autre. Quand on dit aux enfants, une cuillerée pour papa, une cuillerée pour maman, c'est pas maman ou papa qui grossissent. On ne peut pas manger par procuration. Vous pouvez manger en pensant à ceux qui n'ont rien à manger, mais ça ne les nourrit pas. Il faut manger, c'est quelque chose de personnel. On n'est pas sauvé par procuration. On est sauvé parce qu'on s'est approprié soi-même, tout seul, les vérités de l'Évangile. C'est pas parce que nos parents ont cru. La nourriture, elle devient aussi une partie intégrante de notre personne physique. Au fond, ce que l'on mange, ça devient du muscle, des os, de la force. La nourriture, au fond, quand on se nourrit de Christ, on devient semblable à Christ. Dans les versets 53 et 54, regardez ce qu'il dit. Je vous lis juste le verset 54 et le verset 40. « Lis, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est-à-dire, si vous prenez ces deux versets, ils sont identiques, ils disent exactement la même chose. Et ça montre que manger sa chair et boire son sang, c'est croire en Jésus-Christ. La chair et le sang, c'est une métaphore pour parler de la nécessité d'accepter la mort sacrificielle de Jésus-Christ. Quand il dit « celui qui mange ma chair et qui boit mon sang », c'est-à-dire celui qui croit en mon sacrifice. Vous savez, pour que nous soyons nourris, il faut que quelque chose meure. Ce n'est pas quel animal est dans votre four en ce moment en train de cuire. Mais pour qu'il vous nourrisse, il faut qu'il soit mort. Il faut qu'il meure. C'est pareil pour Christ. Pour que la vie de Christ nous soit donnée, il faut qu'il meure. Et manger sa chair, boire son sang, c'est croire dans son sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là qui vous apporte la vie. Alors, communément, il y a trois réactions à cette offre de Christ. Soit on se moque, soit on croit, mais superficiellement. C'était le cas de cette grande foule. Pour les miracles, mais dès qu'il n'y a plus de miracles, dès qu'il faut renoncer à sa propre vie, alors il n'y a plus personne. Vous avez remarqué les versets qu'on a lus tout à l'heure, versets 60, 61. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Si vous voyez le Fils mourir et monter au ciel, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Pour eux, Jésus n'était qu'une source de guérison, de nourriture gratuite, de délivrance de l'oppression de leurs ennemis. C'est tout. Et puis, la troisième réaction, on croit véritablement. On aime Christ plus que les pains. Vous avez remarqué la réaction des disciples, verset 67. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Ce n'est pas des pains qui l'a bouleversé. Mais ils ont cru, ils ont connu que Jésus, il a les paroles de la vie éternelle. Tout ce dont j'ai besoin, Jésus-Christ, là. Imaginez-vous que Jésus est là ce matin parmi nous. Il vient de passer à Purpan et guérir quelques personnes miraculeusement. Et il est là à l'EBTM pour le culte. Il n'a pas voulu prendre la parole, c'est pour ça que c'est moi qui parle ce matin. Mais il nous a fait savoir que il aimerait prendre un moment à la fin du culte pour répondre aux besoins de chacun de ses disciples. Imaginez l'annonce. Jésus est là, il vous attend à la sortie du culte et il va répondre à tous vos besoins. Là, vous êtes pendant le culte, vous n'écoutez pas le message. Vous êtes en train de faire votre liste. Oh là là, qu'est-ce que je vais demander ? La santé. Ça, c'est Seigneur, donne-moi la santé. D'autres diront, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi une épouse, un mari. Ça, c'est pour ceux qui n'en ont pas encore. Vous hésitez à demander, Seigneur, donne-moi juste une grosse somme d'argent, ça me suffit. Quand même, ça me réglerait un certain nombre de mes difficultés. Lorsque nous réfléchissons ainsi, ce que nous voulons en fait, c'est un super médecin, un super banquier, un super agent matrimonial, un ami super riche et puis surtout super généreux, mais pas Jésus-Christ. Mais en fait, c'est de Jésus-Christ lui-même dont j'ai besoin. Et les prières de l'apôtre Paul, c'est toujours des prières qui vont dans ce sens. Qu'on s'approprie Jésus-Christ. Qu'on se nourrisse de sa personne. Qu'on comprenne sa volonté. Qu'on la pratique. J'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de trouver toutes les expressions en lui. Nous avons en lui. Et voilà ce que ça donne. Si j'ai Christ, alors je suis vivant. Si j'ai Christ, alors je suis pardonné. Si j'ai Christ, je suis victorieux. Si j'ai Christ, je suis un avec vous et avec lui. Je suis une nouvelle créature. Je suis réconcilié. Justifié, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si j'ai Christ, je suis saint. Je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. Si j'ai Christ, je suis fils de Dieu, héritier de Dieu. Si j'ai Christ, alors je n'ai plus aucune condamnation. Si j'ai Christ, j'ai la sagesse, l'amour, la force, le courage, la liberté. Si j'ai Christ, j'ai la paix, l'infinie richesse de sa grâce. Si j'ai Christ, j'ai une vocation, j'ai un ministère, j'ai tout ce qui contribue à la vie et à la piété. J'ai la gloire éternelle, j'ai la joie, le salut, la rédemption, la vie éternelle. Et ça, c'est tout ce dont j'ai véritablement besoin. Et que seul Jésus peut m'offrir. Et il est venu donner sa vie pour moi, pour m'acquérir tout cela. Alors, à la fin de ce culte, Jésus est là. Et il est là pour répondre à tous ses besoins. Quelle demande allez-vous faire ? Juste du pain ? Le pain qui va vous nourrir aujourd'hui seulement et que vous aurez encore besoin de demain? Ou est-ce que vous allez demander le vrai pain, le pain du ciel, celui qui va combler vos cœurs, qui va répondre au besoin le plus intime de vos vies. Le vrai pain, Jésus. Demandez Jésus. Rien de moins, mais lui tout entier. Amen.